chouette, une école qui ouvre en Loir-et-Cher. Au diable les grincheux qui se plaignent qu'on brade chaque année la qualité de l'enseignement de nos enfants en fermant à tour de bras des classes. Non, cette fois-ci, une grande et belle école va voir le jour, qui saura, on n'en doute pas, insuffler à nos enfants une envie d'apprendre, d'atteindre l'excellence et de participer à faire de notre école républicaine un modèle d'apprentissage dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité. Sauf que pas de chance, cette école qui ouvre est pilotée par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin et s'inscrit dans le cadre de l'éducation intégrale, on va y revenir, qui prône un rigorisme religieux et un conservatisme éducatif fort. N'aurions-nous pas là, avec cette Académie Saint-Louis, dont l'ouverture est prévue en septembre en Sologne, un vrai projet d'école séparatiste? On en parle avec mes invités, bienvenue à tous et à toutes dans La Lorgnette. Voilà pour cette introduction, un peu empreinte d'ironie, hein, vous l'aurez compris. On va donc longuement parler durant cette heure de l'orgnette de l'Académie Saint-Louis, de son projet en tout cas. L'école n'est pas encore ouverte, la décision tombera bientôt. On va en reparler avec mes trois invités. Bonjour à vous trois, je suis en compagnie donc de Benjamin Salès, membre de la direction du Parti communiste 41. Bonjour.
Bonjour.
Également avec vous, Emmanuel Mercier, qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps. Vous êtes commencé à être un habitué de notre plateau, Emmanuel. Vous êtes co-secrétaire du syndicat enseignant FSU 41. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Catherine, donc animatrice du réseau collectif Lutte Locale Centre. Également, vous avez reçu il n'y a pas très très longtemps, on va aussi y revenir. Ça concernait votre venue dans la chose commune, concernait l'extension du golfe des Bordes. Tout ça participe à un grand projet, un peu pas forcément en lien direct avec l'Académie Saint-Louis, quoique. On va y revenir, évidemment. Bonjour. Merci à tous les trois d'être venus donc, pour parler de ce projet qui inquiète et qui enthousiasme aussi une partie des gens sur la Sologne, la fameuse Académie Saint-Louis. Anciennement dédiée aux orphelins des douanes, le château du domaine de Chalès a été vendu en 2024 donc à Pierre-Édouard Sterrin, qui a vocation à ouvrir donc cette académie sur le principe de l'éducation intégrale. Voilà pour le projet. On a beaucoup parlé de Pierre-Édouard Sterrin, notamment depuis quelques semaines suite à la grande enquête. Je vois que l'Humanité a été sortie par Benjamin, puisque c'est l'Humanité, le quotidien communiste, qui a révélé une série d'enquêtes sur Pierre-Édouard Sterrin et le projet Périclès. On va évidemment aussi revenir sur ce projet, puisque l'Académie Saint-Louis s'inscrit dans un projet plus global. Je voudrais d'abord qu'on parle donc de ce projet éducatif de l'Académie Saint-Louis. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être, Emmanuel, ce qu'est une école ou un établissement privé hors contrat?
Un établissement privé hors contrat, comme son nom l'indique, c'est un établissement privé qui est sans contrat d'association avec l'État. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, mais en tout cas qui est totalement libre de la pédagogie qu'il met en place, des enseignements qu'il met en place. La seule obligation, c'est que les élèves en fin de scolarité obligatoire doivent maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences. Et si c'est un établissement scolaire qui va au-delà des 16 ans, ils doivent pouvoir présenter les examens, donc le baccalauréat, etc. Voilà. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, un établissement privé hors contrat, quasiment n'importe qui peut l'ouvrir. Il y a eu énormément de simplifications. Au nom de la simplification administrative, les législations ont évolué. Et notamment depuis la loi Gatel de 2019, n'importe qui peut ouvrir quasiment n'importe quoi, puisqu'il suffit juste d'être français et de disposer d'un niveau de diplôme suffisant, un bac plus 5. Donc voilà les conditions qu'il y a pour ouvrir un établissement privé aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas problématique que des établissements comme ceux-ci soient finalement accepté quand même par alors quel serait le ministère de tutelle? Est-ce qu'il y en a un même? Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale reste le ministère de tutelle d'un établissement hors contrat? Est-ce que voilà?
Ça dépend ce qu'on appelle la tutelle. Il n'y a pas de tutelle, c'est-à-dire que l'État n'intervient absolument pas, ouais, ni dans le recrutement des personnels. L'État n'intervient que dans le contrôle pédagogique de l'établissement. Encore une fois, ils doivent ils ne sont pas totalement libres, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qu'ils doivent respecter, notamment donc le fait de faire acquérir le socle commun, et normalement de respecter les principes fondamentaux de la République, la laïcité, la liberté de conscience. Et là, on va voir qu'on peut avoir de sérieux doutes sur l'établissement qui est censé ouvrir.
Premier élément intrigant, inquiétant, il me semble, de cette Académie Saint-Louis, c'est la non-mixité. Alors, pour le moment, elle n'ouvrirait qu'aux garçons dans un premier temps à partir de septembre. On parle quand même d'une ouverture aux filles pour la rentrée d'après, 2026-2027. Malgré tout, se pose dans ce genre d'établissement, je crois, la question des rapports filles-garçons. Est-ce que vous voulez en dire quelque chose?
Alors, sur la non-mixité, d'abord, l'Académie Saint-Louis restera non-mixte. En fait, le projet, c'est d'ouvrir un autre établissement.
D'accord.
Pour les filles.
Ok, ce serait pas dans le domaine de Chalès, en fait.
D'ailleurs, est favorisée par la charte de l'éducation intégrale, en réalité.
Ouais, on va y revenir aussi sur l'éducation intégrale. Et ben maintenant, Benjamin.
Oui, donc, le projet de Pierre-Édouard Sterrin, c'est d'installer une académie par région académique. Ouais. Donc là, c'est pour la Sologne, il s'agit d'un test. Et ensuite, il y aura effectivement des académies consacrées à l'éducation des jeunes filles. Nous attendons de voir le programme éducatif. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la non-mixité, dans la charte de l'éducation intégrale de 2022, qui est donc le projet... Saint-Joseph Éducation, qui a pour but de rassembler les établissements chrétiens autour d'un projet d'éducation intégrale. Il est assez intéressant de noter certaines obsessions qu'ils peuvent avoir. Et donc, je cite, « On veillera ainsi à ne pas exposer les enfants à l'immoralité, incitation à la débauche, détournement de mineurs, dont acte et fort heureusement, ingérence idéologique. » Ça fait écho un petit peu au publi-reportage, comme nous l'avions qualifié, dans la Nouvelle République en date du 7 mars 2025, où le grand titre indiquait Académie Saint-Louis, nous ne sommes pas au service d'une idéologie. Et donc on retrouve ça dans la charte d'éducation intégrale, et on verra bien par nos échanges que l'idéologie la plus réactionnaire se trouve au cœur de ce sujet.
J'avais noté, c'est presque la première phrase après l'introduction, que dans la charte de l'éducation intégrale Saint-Joseph, il est indiqué « chaque enfant reçoit sa dignité de Dieu ». Donc on marque bien l'entrée dans un catholicisme rigoriste, comme on l'a déjà dit et comme il a donc été émis dans des documents qui tournent. Donc effectivement, ça marque dès d'entrée de jeu cette charte, le principe et les valeurs portées par cette éducation intégrale et donc par l'Académie Saint-Louis qui va y appliquer les valeurs.
Tout à fait. Et dans leur paragraphe C5, mixité et unité dans l'éducation du masculin et du féminin, il est noté « Pour autant, la non-mixité n'induit pas nécessairement des relations saines et équilibrées entre filles ou entre garçons. Dans tous les cas de figure, le projet éducatif de l'établissement doit prévoir d'accompagner les élèves dans le développement d'amitiés authentiques, fondée sur l'apprentissage de l'accueil et du dialogue, incluant la progressivité de la maturité de la relation. C'est dans ce sens que les enfants du réseau seront accompagnés pour éviter autant que possible les souffrances liées aux troubles de genre. » Donc, nouvelle obsession de la future Académie Saint-Louis et de l'éducation intégrale. Il pourrait y avoir des troubles de genre et donc ils seront accompagnés. Peut-être cela pourrait-il être appelé une thérapie de conversion condamnée par la loi. Et il y a eu d'ailleurs une grande mobilisation il y a quelques jours.
Un projet de loi qui est porté sur les thérapies de conversion.
Voilà, au niveau européen.
Oui. Tout à fait. Évidemment, en me renseignant et en ayant les échanges qu'on a là, on ne peut s'empêcher, avec l'actualité débordante sur ce sujet, de penser à Bétarame et à ses dérives. Alors, sans parler, de potentielles agressions qui pourraient y avoir lieu, Dieu nous en garde, si vous me passez l'expression. L'absence de contrôle et d'un cadre, c'est l'absence de contrôle et d'un cadre réglementaire qui a, entre autres, mené à ces dérives au sein de l'école de Bétarame. Quel pouvoir a la force publique pour contrôler ce genre d'établissement, Emmanuel, par exemple?
L'État, encore une fois, donc l'éducation nationale, a le pouvoir d'aller inspecter. Et notamment sur la protection de la jeunesse, sur les enseignements, etc. Ce qu'il faut noter
quand
même... On
se rend compte que c'est plus compliqué que ça.
Alors, c'est plus compliqué que ça. Les inspections, les établissements hors contrat, alors, dans le Loir-et-Cher, ont été inspectés tous les dernières années.
Okay.
Il y a eu des... nous, on sait qu'il y a eu des demandes de mise en conformité, des rappels à l'ordre de fait. Alors, ça n'a pas débouché sur de fermetures d'établissements, mais voilà, on sait que tous les établissements hors contrat ont été inspectés, notamment par l'Éducation nationale, mais pas que. C'est-à-dire que les autres services de l'État ont également mis leur nez dans ces établissements-là. Et d'ailleurs, paradoxalement, ils sont peut-être même plus contrôlés que les établissements sous contrat, en réalité. mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, donc il y a ce type de contrôle là qui est possible par l'État.
Oui, on parle aussi du prix d'adhésion. Hein, on parle d'une école privée, très privée. Donc hors contrat, j'ai noté le prix d'entrée minimum en fonction de des quotients CAF. Hein, voilà, enfin sans rentrer dans les détails, serait de 4 500 € l'année à 14 000 € l'année. Donc on parle évidemment d'une école d'élite. Hein, alors le but est revendiqué hein, de former les futures élites. On y reviendra aussi sur la partie plutôt idéologique du projet. Mais on voit bien que même une école, c'est une école privée qui ne s'adresse pas à tout le monde. Hein, est-ce qu'on peut rappeler, Emmanuel, peut-être le prix d'une école privée classique sous contrat quand on met ses enfants dans une école comme on en voit régulièrement, souvent dans le Loir-et-Cher ou ailleurs.
Oui, alors c'est variable, mais les écoles privées sous contrat, alors déjà, sont financées à presque 75% par l'État, je rappelle quand même. Mmh. Et les frais de scolarité varient. Alors, en fonction de si c'est une école, justement, si c'est un niveau élémentaire ou un lycée, on n'a pas le même tarif. Mais pour reprendre 4 500 €, c'est plutôt une fourchette haute, en fait, hein, ouais. sur le privé sous contrat pour l'année. Mais ce qui est intéressant de voir sur les tarifs affichés par l'Académie Saint-Louis, c'est que le tarif le plus faible, qui correspond au quotient familial le plus faible, en réalité, alors je ne les ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est un quotient familial à hauteur de 6 000 ou 7 000. C'est-à-dire qu'en fait, un couple avec enfant, c'est 14 000 euros de revenus annuels déclarés aux impôts. Donc on ne voit pas un couple qui déclarerait 14 000 ou 15 000 euros de revenus annuels payer 4 500 euros de frais de scolarité pour leurs enfants. Donc on voit bien que... Et en plus, ça monte très vite, si vous regardez bien. Mmh. Et donc on va plutôt être dans les fourchettes à 14 500 euros l'année
que sur les fourchettes basses. Benjamin, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être?
Oui, sur l'académie en tant que telle et le projet de Pierre-Édouard Sterrin, avant d'en reparler un peu plus tard,
ouais.
Un peu plus tard dans la partie idéologique, c'est que vraisemblablement le recrutement ne semble pas être très régional pour le moment. C'est plutôt l'élite de l'Ouest parisien, Intramuros et Hauts-de-Seine et Yvelines, et puis quelques jeunes dont les parents pourraient les amener à intégrer cette future élite de la France lorsque le vœu de Sterrin, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, sera accompli.
Est-ce qu'on peut parler du programme affiché, du programme pédagogique affiché de l'établissement?
Le programme pédagogique, c'est cours le matin, sport l'après-midi, avec des sports plutôt virils, hein, puisque c'est le rugby qui est mis en avant, l'aviron, enfin voilà, des sports...
Et des sports c'est plutôt bourgeois,
du coup. C'est une école Harry Potter, en fait, hein, clairement, avec l'humour en moins, quand même. Et sur ce projet pédagogique-là, on est clairement, pour nous, dans l'endoctrinement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé l'opposition d'ouverture. Parce que ce qui a été affirmé par Pierre-Édouard Sterrin, qui est le financier de ce projet, les Académies Saint-Louis, ça appartient à Otium Capital. Et d'ailleurs, ils sont hébergés au même endroit, dans le même bâtiment à Paris. Le siège est hébergé dans le même bâtiment qu'Otium Capital, donc qui est le fonds de Sterrin. Le projet politique de Sterrin, il est clair, c'est faire gagner l'extrême droite. Et il l'a dit également, pour ça, il construit des écoles. Et donc, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un établissement scolaire ou est-ce que c'est une académie politique? Et on est plutôt, nous, convaincus que c'est la deuxième solution, une académie politique. Donc, ça n'est pas un établissement scolaire. Et donc, ça justifie d'autant plus un refus d'ouverture de la part du recteur. Et là, il y a un réel danger, on l'a dit, dès le départ, d'endoctrinement de la jeunesse. Et donc, au nom de la protection de la jeunesse, c'est un deuxième motif d'opposition à l'ouverture, nous, on pense que cet établissement-là ne doit pas ouvrir. On a quand même... alors, il y a Sterren d'un côté, puis il y a le directeur de l'Académie Saint-Louis, qui a été directeur du lycée Notre-Dame des Aides à Blois, qui est bien connu pour, entre autres, avoir refusé à une classe d'aller voir un film au cinéma parce que deux hommes s'embrassaient dans le film. Et donc, ça marque un personnage quand même, ça marque une idéologie, ça marque une orientation. Et pour toutes ces, pour toutes ces raisons-là, il y a une opposition à l'ouverture qui est justifiée. Enfin, dernier point, parce qu'on parlait de Betaram tout à l'heure, le modèle affiché dans le fonctionnement, c'est un fonctionnement en capitainerie. C'est-à-dire qu'à terme, les élèves les plus anciens vont encadrer les élèves les plus jeunes. C'est exactement ce qui a été reproché lors de la seule inspection qui a eu lieu à Betaram et qui avait été remis en cause par l'inspecteur de l'époque. C'est ce fonctionnement-là qui génère des violences. Et donc, on voit que tout est réuni, finalement, pour que les jeunes qui seront scolarisés dans cet établissement-là soient soumis à une forme de danger. Et le principe de précaution veut que, ben, on n'ouvre pas un type d'établissement qui, d'entrée, affiche ce type de projet éducatif.
Benjamin, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Sur ce sujet, ouais. Pas particulièrement.
Non, il n'y a pas de souci. Très bien. On fait une petite pause et on revient tout de suite après pour continuer à parler de l'ouverture prévue de cet établissement, l'Académie Saint-Louis en Sologne. À tout de suite.
Tu étais venu en quart au cœur du mois d'août pour chercher un peu d'espoir dans ce monde fou. Au détour d'une prière, dans un amour immense, nos deux mains se rencontrèrent, chantons à l'abondance. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas nos messies, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Dans la halle 127, au stand sur le partage, je t'avais compté fleurette, mais ton cœur était en cage. Comme le père de la paroisse nous avait donné carte blanche, nous on en a profité pour prier comme un dimanche. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas nos messies, grâce à qui nos deux vies se détartrent.
Ça va les garçons?
Ouais,
bon, tout le monde peut chanter avec nous, hein. Cette chanson c'est la page 228 dans vos diapasons.
On a parlé comme des fous de Dieu, d'équitation, de Saint-Nico, du Chardonnay, de voile, de communion. Tu m'as expliqué tes doutes sur tous ces sujets graves, puis tu as repris ta route, tu es loin et j'en bave.
Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas nos messies, grâce à qui nos deux vies se détartrent? Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Grâce à qui nos deux vies se détartrent.
Il ne nous reste plus grand chose pour lutter. Des fois, l'humour, ça fait du bien. On vient d'écouter Hold Laugh avec Nathalie, mon amour des JMJ, pour faire un peu d'écho à cette émission, à la thématique de cette émission. Donc, je vous rappelle, nous parlons du projet d'ouverture de l'Académie Saint-Louis en Sologne avec Benjamin Salès du Parti communiste 41, Emmanuel Mercier du syndicat enseignant FSU et de Catherine, donc du collectif Lutte Locale Centre. On va parler, après avoir dégrossi un petit peu le projet pédagogique de cette future potentielle académie ici en Loire-et-Cher, du projet idéologique qui se cache derrière. On a déjà glissé évidemment la pédagogie, notamment dans ce genre de cas, n'est pas très éloignée d'une certaine idéologie. On va reparler du propriétaire de ce domaine de Chalès, Pierre-Édouard Sterrin, qu'on pourrait qualifier de philanthrope d'extrême droite. Je ne sais pas si le terme est correct, parce que quand on est d'extrême droite, est-ce que la philanthropie est vraiment de mise. En tout cas, vous l'avez dit, Emmanuel et Benjamin, l'Académie Saint-Louis est le premier établissement d'un projet d'une longue lignée, hein, une Académie Saint-Louis en projet par région. J'ai repéré une anecdote qui, selon moi, ne manque pas de sel. En 2018, Pierre-Édouard Sterrin incitait dans une pétition ou un appel, en tout cas, incitait les Français les plus aisés à donner au moins 10% de leur revenu annuel ou de leur patrimoine à des fins philanthropiques. Quand on sait que Pierre-Édouard Sterrin est désormais exilé fiscal en Belgique et que le siège social de sa plus grande firme, donc à savoir les boîtes cadeaux Smartbox, sont domiciliées en Irlande, je trouve ça assez cocasse, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, vous êtes invité à nous donner d'autres éléments sur Pierre-Édouard Sterrin et donc son projet idéologique plus global que juste l'Académie Saint-Louis.
Alors, plutôt qu'exil fiscal, nous, dans le communiqué commun qu'on avait fait au départ, on a parlé de fugueur fiscale.
Fugueur fiscale.
Parce qu'en réalité, personne ne l'a forcé à partir pour ne pas payer d'impôts. C'est quelqu'un qui assume de partir en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France, ou très peu, et qui assume de choisir les projets. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est à l'antithèse de la République et du citoyen républicain qui doit participer à la contribution commune. Et rien que ça le décrédibilise totalement pour l'entièreté des projets qu'il souhaite financer.
Et d'où l'écart que je citais là sur cette fameuse citation où il incitait les plus riches à donner 10% de leur revenu. Je trouve que ça assez marquant. Benjamin.
Effectivement, oui, c'est assez cocasse quand on analyse le personnage. Depuis maintenant 2 ans, l'Humanité avait fait, notamment avec le journaliste Thomas Lemayeux, mais aussi Lionel Venturini, un certain nombre de révélations qui ont été reprises par La Lettre et puis ensuite par de nombreux organes de presse. Et on a donc, vous le rappeliez, ce fugueur fiscal qui est parti à l'arrivée de François Hollande quand même, puisque...
Sans doute trop de gauche.
L'ancien président de la République s'était identifié comme l'ennemi de la finance et donc il a dû prendre peur et partir chez nos amis... belge. Périclès, c'est un acronyme. Et donc l'Humanité avait trouvé le déroulé de cet acronyme. Donc patriote, oui, pour un fugueur fiscal c'est parfait. Enraciné, c'est encore plus parfait. Résistant. Résistant à quoi ? Encore un abus de langage et une accaparation du vocabulaire.
Militant
et historique de personnes qui, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de dire non
à une idéologie similaire,
les gaullistes, les communistes, les socialistes, les chrétiens de gauche, et voilà. Identitaire, pour le I, C comme chrétien, L comme libéraux, E comme européens, et S comme souverainiste.
D'ailleurs, on peut voir une certaine... Enfin, c'est un peu fourre-tout hein, quand même comme projet. Hein. Souverainistes et européens ne vont pas forcément ensemble. Donc on voit bien qu'au-delà de l'acronyme qu'il fallait peut-être trouver, hein, Périclès, aussi personnage historique grec, il me semble, créateur ou en tout cas défenseur de la démocratie grecque à l'Antiquité. Donc on voyait bien qu'il fallait peut-être remplir des cases, hein, mais on voit qu'il n'est pas étouffé par la cohérence non plus dans son projet.
Oui, un stratège d'Athènes que d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau et les révolutionnaires de 1789 ont rejeté puisqu'ils le considéraient comme un tyran, Périclès, et comme l'artisan de la décadence morale de la démocratie athénienne.
L'Académie Saint-Louis est-elle la première pierre, ou en tout cas la première marche d'un élève, d'un enfant en formation, en apprentissage, vers d'autres établissements, d'autres structures pilotées et financées par Édouard Sterrin? Est-ce que avec le rachat d'écoles, notamment de journalisme, de médias, d'autres établissements très divers par sa philanthropie, je mets des guillemets, ne constitue pas la première marche vers un parcours de formation des élites de l'extrême droite et voué à faire les futurs dirigeants du Rassemblement National, du parti de Zemmour, etc.
C'est bien plus pernicieux que ça, parce que l'Académie Saint-Louis, c'est un collège et un lycée. Mm-hmm. Mais en fait, Sterrin, par le fonds du bien commun, par sa philanthropie, finance également en ce moment tout un réseau d'écoles dans des villages où l'école publique a fermé, bien souvent. Et donc, c'est Excellence Ruralité.
Ça commence bien plus tôt que le collège.
Ça commence bien plus tôt que le collège. Mmh. Et il est en train de financer des écoles, y compris dans des villages où il n'y a plus d'école publique. Mmh. Parce que, à cause de gens comme Sterrin, justement, les finances publiques ne permettent pas toujours d'assurer la présence d'une école publique.
Et où je donc, le disais, voilà. Les écoles publiques ferment à tour de bras, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, les fermetures de classes sont plutôt la tendance, hein, plutôt qu'à l'ouverture. Et donc, on vient rappeler, s'il le fallait, notamment au sein de Studio Z, et de cette émission, que la défense des services publics est une priorité, puisque justement le privé et le conservatisme foisonnent là où le public disparaît.
Il a prévu d'ici 2032 de mettre 150 millions sur la table pour pouvoir assurer une coopération de la droite dure et de l'extrême droite et empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir. À ce sujet, la représentation nationale, les parlementaires à l'Assemblée nationale ont souhaité l'entendre, puisqu'ils voulaient l'interroger et interroger l'homme d'affaires sur l'entreprise qui vise, selon les députés qui faisaient partie de cette commission d'enquête, d'influencer la vie politique française. À deux reprises, Pierre-Édouard Sterrin s'est abstenu de venir répondre aux...
À trois reprises, hein, même, il me semble, la dernière en date était il y a quelques jours.
Ouais. Oui, tout à fait. Donc c'est assez inquiétant sur l'observance des lois de la République et du peu de cas qu'il peut faire de la représentation nationale. Pour quelqu'un qui se revendique patriote fugueur en Belgique, c'est assez, assez surprenant, quoique pas tout à fait. Il finance aussi... en s'inspirant du Puy du Fou de Philippe de Villiers en Vendée. Donc il a créé un spectacle à Moulins, dans l'Allier, qui s'appelle Murmure de la Cité, et là qui va être au programme du 11 au 13 juillet. 300 figurants en costume chargés de retracer les grandes heures de l'histoire de France.
Clovis, on voit bien le projet similaire à celui du Puy du Fou de réécriture de l'histoire.
Clovis et sa conversion, Jeanne d'Arc... Et toutes les figures du roman national vont être convoquées aux côtés de rois et même de Napoléon. Et donc il s'agit de présenter, et ça c'est écrit directement, la France comme un pays éternel guidé par la Providence qui survit aux tourments, se réinvente et se projette dans un avenir toujours plus lumineux. C'est assez intéressant de voir comment Pierre-Édouard Sterrin et toute la galaxie qui l'entoure essayent... de même que Vincent Bolloré, hein, puisqu'il travaille main dans la main, essaye de façonner un imaginaire collectif nouveau, de retrouver des racines particulièrement rétrogrades et donc inquiétantes pour l'avenir. Donc il a été nommé par l'Observateur le saint patron des Catoréaques. Donc il y a tout un dossier dans l'autre abonnement, puisque donc, je suis abonné à l'Humanité, et en tant que catholique, je suis aussi abonné à Goliath Hebdo et à Témoignages Chrétiens. Et donc cette semaine, un très beau dossier sur qui est vraiment Pierre-Édouard Sterrin. Et donc c'est assez remarquable, puisque l'on retrouve dans le projet de l'Académie Saint-Louis la nécessité, dans le cadre du projet pédagogique, d'emmener les garçons de l'Académie vers la sainteté. Et donc cet exercice du sport avec un taux horaire à outrance, on peut avoisiner les 13 ou 17 heures de sport par semaine, interroge sur ce qu'ils souhaitent faire de ces jeunes hommes au sein de cette académie. En tout cas, ils sont liés à différentes communautés particulièrement rigoristes et traditionnalistes dans la région, notamment la communauté Saint-Martin, qui va leur prêter main forte pour l'éducation. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait, si on veut donner des modèles religieux ou catholiques à des jeunes dans des établissements privés. Il n'y a qu'à prendre une publication de la conférence des évêques de France et qui propose comme exemple de sainteté pour le 19 mars Marcel Callot, qui est né en 1921 à Rennes, qui était ouvrier typographe et qui s'est engagé dans le scoutisme puis à la jeunesse ouvrière chrétienne. Pendant la guerre, il continue à militer parmi les travailleurs français réquisitionnés par le STO. Il est arrêté en 1944 et déporté au camp de concentration de Mauthausen. Il y meurt en mars 1945. Il a été béatifié en 1987 et il est l'un des 12 modèles de sainteté proposés aux jeunes. Donc il suffit juste d'aller voir ce que dit l'Église de France pour avoir des modèles et ne pas se mettre dans des positions extrémistes et très réactionnaires, comme le veut en fait le projet du Fonds du bien commun.
Vous en parliez, donc vous êtes vous-même, Benjamin, catholique. On voit bien qu'il y a une scission dans les courants du catholicisme. Pierre-Édouard Sterrin a essayé, justement, via son fonds, de racheter le groupe Bayard, propriétaire du journal catholique La Croix. Ça n'a pas marché. Donc on voit bien qu'il y a une résistance de la part de... Alors, La Croix n'est pas un journal rigoriste, loin de là justement, plutôt catholique de gauche, on va dire, avec une vraie veine sociale. Mais j'imagine que ça trouve écho malgré tout dans une certaine frange de la communauté catholique et chrétienne.
Oui. Tout à fait.
Ok. On va continuer cette conversation. On va, comme chaque semaine, écouter la recommandation. Cette semaine, une émission, un podcast sur lequel s'appuie largement cette émission. Je vous fais écouter le podcast Pagaille, produit par le site d'information en ligne Blast, qui revient sur justement l'implantation de Pierre-Édouard Sterrin et de l'Académie Saint-Louis, avec le passage, ma foi, fort intéressant, qui va nous permettre de réagir avec mes invités sur les quelques élus qui ont voulu répondre ou pas, et ça on dit aussi beaucoup, aux journalistes donc de Blast. On écoute cette recommandation, donc le podcast s'appelle Pagaille.
Face à ce projet de l'Académie Saint-Louis, il me faut aller à la rencontre des élus, du moins ceux qui acceptent de me parler, et dans ce qui s'apparente presque à une forme d'omerta propre à l'identité solognotte. Rencontre avec Agnès Thibault, qui me reçoit dans l'un de ses plus énigmatiques châteaux qui abrite le siège de la communauté de communes de la Sologne des Étangs qu'elle préside en tant que maire de Marcilly-en-Gault. Évidemment, l'histoire qui nous fait venir, c'est celle d'un autre château, le château du domaine de Chalès, qui a été racheté l'an passé grâce à Pierre-Édouard Sterrin et qui va abriter un futur pensionnat.
Écoutez, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la liberté de monter ce genre de projet. Et ben pourquoi pas? Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse en fait dans tout ça, c'est qu'il faut que tout le monde respecte la République, donc la liberté, l'égalité et la fraternité.
Mais vous avez déjà la possibilité, puisque les enquêtes se sont multipliées depuis un an maintenant, on connaît l'existence des intentions, ce projet Périclès. Vous l'avez lu?
Oui, mais on est libre de le faire, ils ont le droit de le faire. C'est comme les partis politiques. Il y en a qui râlent sur le Fonds national. On a droit, le Fonds national. Il y en a qui râlent contre LFI, parce que c'est encore une bonne raison. Ben oui, mais LFI existe. Hein. Voilà. Donc les partis politiques, on existe. On a le droit de le faire. Ils ont la liberté de monter, de monter cet établissement.
Deuxième rendez-vous avec un élu. Cette fois-ci, avec le maire de Nouhans-le-Fuselier, l'une des trois communes dont dépend le domaine de Chalès, où va s'implanter sur ses 175 hectares l'Académie Saint-Louis, un domaine qui appartenait jusqu'à son rachat par Pierre-Édouard Sterrin en 2024 à l'institution des orphelins des douanes. Mais ça, c'est du passé. Patrick Lunet, c'est gentil de nous recevoir dans la mairie de Nouhans-le-Fuselier.
Tout à fait.
Combien d'administrés ?
2337.
Et il y a l'ouverture prochaine d'un lycée, collège, hors contrat sur le domaine de Chalaise.
Tout à fait. C'est en ce sens que, disons, le projet de reprise qui a été formulé par, pour en faire un établissement scolaire, finalement, nous, est très intéressant puisque ça redonne vie à un espace qui autrement périclitrait. Ça donnera aussi éventuellement des possibilités d'emploi à des personnes qui pourraient être employées sur le site. Et puis ça donnera aussi du mouvement. Et un maire, quel qu'il soit, cherche toujours à ce que sa commune vive. Et je ne cache pas qu'avoir un établissement scolaire quasiment sur place, de cette nature, c'est très intéressant pour, les, pour nous.
Oui, monsieur le maire, Patrick Lunet, on s'inquiète un peu d'une charte qui semble un peu rigoriste, un peu tournée vers une idéologie qui peut... Pour certains, et là je parle des syndicats qui ont signé tout de suite une défiance, un communiqué de presse, disant « nous allons les embrigader, les enfants ».
Si y a des familles qui sont intéressées, c'est que le projet peut les intéresser. Il ne s'agit pas d'embrigadement, il s'agit de faire des choix, et que bon, on verra bien sur place comment ça se passera.
Donc cette ouverture sera effective à votre avis ?
Il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais.
Aujourd'hui, il y a peut-être un sentiment, à la fois pour ceux qui vont ouvrir cet établissement à l'Académie Saint-Louis, de harcèlement, de laissez-nous faire. Il y a une position presque victimaire. Et ils ne comprennent pas l'opprobe. Vous ne voulez plus me parler ? Je coupe. Voilà. Le maire de Nouant-le-Fuselier, ancien général de la gendarmerie à la retraite, n'en dira pas plus. Ses interrogations et suspicions portées par l'ensemble d'une presse engagée à gauche, selon lui, lui qui est ouvertement, et il le revendique, de droite et catholique, l'horripile. Et quant au maire de la grosse commune limitrophe, Salbris, Alexandre Avril, j'ai eu droit à un refus plein de mépris et catégorique d'entretien. C'est que le jeune trentenaire, Alexandre Avril, est beaucoup plus politique. Une figure montante du parti d'Éric Ciotti. Il est soutenu par Pierre-Édouard Sterrin comme étant un des futurs candidats nationaux.
Voici donc pour cette recommandation un podcast d'une durée de 45 minutes, passionnant de bout en bout, dans lequel Emmanuel et Benjamin vous apparaissez. J'ai volontairement évidemment choisi des passages où vous n'êtes pas, et puis un passage qui m'intéressait particulièrement, donc à savoir la parole des élus de la Sologne. On voit bien avec ces deux témoignages et le refus d'Alexandre Avril, on va revenir à Alexandre Avril dans une minute, qu'il y a deux arguments qui peuvent paraître incontestables, mais qui me semblent intéressants quand même à développer et à déconstruire, le prétexte de la liberté d'installation et puis l'argument évidemment de l'emploi et de l'activité locale. Est-ce que vous voulez chacun, tous les trois, y revenir ?
Ouais, enfin,
Emmanuel, continue, et puis mais... après Catherine. Ouais.
Sur la liberté d'installation, en République, il y a des lois et la liberté est encadrée par la loi. Lorsque le rédacteur de la charte de l'éducation intégrale parle de tyrannie républicaine en parlant de la République, lorsque on voit que un des premiers colloques qui va être organisé au domaine de Chalès avant la rentrée fin août, c'est un colloque qui aura pour intitulé le piège de la laïcité, on peut s'interroger
le
légitimement
message est clair.
Sur le respect de la loi et oui et le message est effectivement très très clair. Donc la liberté en République, en tout cas, elle est encadrée par la loi. Et les établissements privés, même hors contrat, doivent respecter la loi. Et encore une fois, la loi leur impose de respecter la liberté de conscience. La loi leur impose de respecter les principes fondamentaux de la République. Or, dans la charte de l'éducation intégrale, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a que la liberté de croire. Et la liberté de croire dans le seul Christ. Donc il n'y a non seulement pas la liberté de ne pas croire, mais il n'y a pas la liberté de croire en autre chose. Donc ça veut dire que la liberté de conscience, elle n'est pas assurée dans cet établissement.
Ce qui en fera un argument, il va y revenir juste après sur la décision d'ouvrir ou pas cet établissement. Benjamin.
Alors que la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire ou d'avoir une autre foi est respectée dans tous les autres établissements catholiques sous contrat dans le département.
Catherine, vous n'avez pas eu la parole, mais c'est votre moment. effectivement, au nom du collectif Lutte Locale Centre, vous êtes en pointe sur certaines des batailles d'ouverture. Vous avez, comme je le disais en début d'émission, reçu pour l'extension du Golfe des Bords. La Sologne est un point névralgique de vos actions au collectif. Donc j'imagine que cet établissement, au bout d'un point de vue local, il a aussi une grande importance.
Oui, alors en fait, la Sologne, si on essaye de commencer à penser à qu'est-ce que la Sologne en fait, la plupart du temps on nous dit les Sologneaux sont des ventres jaunes, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à obéir, à accepter en fait leur sort, leur triste sort. Donc on va imaginer que la Sologne n'a pas d'autre avenir que celui
de subir
donc du coup on accepte évidemment que le territoire soit engrillagé, pardon, que derrière ces grillages et ces barbelés, on a placé des miradors, on a placé des caméras pour soi-disant contrôler en fait la circulation cinégétique du gibier, mais en fait derrière un grillage il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de liberté. En fait c'est pas vrai, il n'y a absolument pas de liberté de mouvement, ni du gibier, ni de la population. On leur impose les miettes aujourd'hui, en fait, les Sologneaux n'y ont plus accès, tout simplement.
Je vous renvoie à une lorgnette du mois de décembre où on s'était entretenu avec Jean-Baptiste Fauré, l'auteur de l'enquête formidable autour des ultra riches en Sologne et de la chasse qui est pratiquée et qui forme un espèce de triptyque avec cette émission, celle de Jean-Baptiste Fauré, et puis l'extension du Golfe des Bords, qui montre bien que la Sologne est un enjeu de territoire assez crucial. Il y a aussi, comme le disait le maire de Nouhans-le-Fuselier, l'argument de l'emploi. Est-ce qu'il est recevable dans le cadre de cette création de l'Académie Saint-Louis, Catherine, Emmanuel?
Moi, je vais dire non, déjà.
Je crois qu'Emmanuel va répondre pareil, mais on va le laisser répondre
oui.
Après.
Alors, tu nous l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, les enseignants ne viennent pas du territoire, ils viennent, en fait, c'est à peu près la même chose qui va se passer ou qui se serait passé. En tout cas, avec la proposition du Golfe des Bords, le projet d'extension, c'était de faire venir à peu près 300, 400, 600, 900 emplois. Enfin bon, bref, on est sur des chiffres complètement utopique. On a la même chose sur les plateformes logistiques. On nous a les maires, les élus en fait de Sologne ouvrent les portes donnent les terrains en fait aux plateformes logistiques, donc qui sont ni plus ni moins que des investisseurs de fonds d'investissement étrangers. Et en fait, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi fixe, ou alors éventuellement les gens seraient condamnés à ne travailler que dans des plateformes logistiques, dans des conditions qui sont déshumanisantes. Et voilà, c'est le mode du travail actuel. Et ça impose aussi un style de vie, une société qui est découpée. C'est-à-dire qu'on on fait les horaires les 3-8, mais une fois qu'on a fini les 3-8, et ben en fait, on a le droit à aller voir un super spectacle. Par exemple, Alexandre Avril, encore pour ne citer que lui, va organiser ou tout au moins accueille un festival sur les Gaulois, où il est question de voir des Gaulois se taper dessus, parce que c'est super chouette quand même, c'est vraiment viril, etc. etc. Et où on va, en fait, voilà, je veux dire, il n'y a pas d'autre option. Là, au niveau culturel, il ne propose rien d'autre.
Benjamin, vous vouliez réagir?
Oui, sur l'emploi et la Sologne.
Et l'attractivité, oui.
Et l'attractivité. Je me réfère à un article dans l'Humanité en 2018 d'Olivier Morin, qui était journaliste du CRU, et qui avait fait toute une enquête sur la résurgence du Second Empire et de ses grands seigneurs. Donc, c'est les précurseurs.
Des nouveaux seigneurs.
Voilà, des nouveaux seigneurs. Et nous avions fait au Parti communiste une journée d'études avec des universitaires de l'Université d'Orléans sur l'engrillagement et sur le mitage complet des chemins communaux par ces grands propriétaires, déjà à l'époque, les découvertes, les années précédentes de charniers, par exemple 348 colverts dans une fosse, dans une propriété qui est affichée dernièrement par la presse. Un certain nombre de choses plutôt scandaleuses. Beaucoup de ces grandes propriétés utilisent des soloniaux qui ont des retraites scandaleusement basses et qui se retrouvent à devenir gardiens domestiques et donc plutôt corvéable à merci, puisque lorsque l'hélicoptère des propriétaires arrive à 4 heures du matin, il faut servir la tisane de madame, le whisky de monsieur. Et donc, tout est à l'avenant. Et donc, parfois, on dit que ce sont des gens qui sont taiseux, mais c'est une insulte par rapport à la population qui est dans une paupérisation particulièrement intense dans ce territoire de notre département. Et il y a une économie parallèle qui fait que parfois c'est l'omerta par rapport à ces chasses, par rapport à ces activités, puisque ces personnes se retrouvent muselées, puisqu'on les invite à la fin des grandes chasses pour manger les restes. Il est assez intéressant de voir un dimanche soir en période de chasse l'aire d'autoroute du côté de la Motte-Beuvron ou toutes les aires en Sologne où ces messieurs se débarrassent du gibier dans les poubelles et les pauvres de la région viennent chercher à manger. Et ça, c'est horrible. Et donc l'emploi, en tout cas sur l'Académie Saint-Louis, je n'y crois pas. Mais comme le disait Catherine, il y a vraiment un enracinement local et pas seulement un parachutage de ce projet d'Académie Saint-Louis en Sologne. Il y a un terrain favorable, notamment parmi un certain nombre d'élus, Alexandre Avril, et on retrouve, puisque c'est à la une toujours de la Nouvelle République du vendredi 7 mars 2025, donc... comme le citait Emmanuel, Jean-Cyril Perrotto, qui va être le directeur de l'école et l'ancien principal du collège Notre-Dame-des-Aides. Et il y a aussi Hubert Dambrine, qui va être directeur du site.
Qui est-il ?
Alors, Hubert Dambrine, c'est une personnalité de Sologne. C'est notamment le patron de Chambord Prestige, donc un fameux traiteur qui travaille avec beaucoup d'institutions publiques. Notamment, mais pas que. Il est aussi au comité directeur départemental de la Fédération française de rugby. Peut-être y a-t-il un lien avec Heritage Cup de rugby qui a eu lieu à Pont-le-Voie, à l'abbaye de Pont-le-Voie, au lycée catholique de Pont-le-Voie, qui n'est pas forcément un lycée...
Tout à fait, vous faites bien de le rappeler.
Très progressiste et très modèle. Voilà. Son épouse, Madame Axelle Dambrine, et la dirigeante, la présidente d'une association qui s'appelle Tous Bénévoles en Sologne, qui est une association qui est parrainée par Guillaume Pelletier, à l'époque député.
Élu d'extrême droite, désormais.
Voilà, maintenant élu d'extrême droite. Jeannie Lorjou, le maire de Romorantin, qui,
De gauche
initialement plutôt de gauche un baron local.
Un baron local, ça c'est sûr.
Doit avoir un dressing au niveau des vestes pour les changer, assez important. Et Constance de Pellichy, la maire de la Ferté-Saint-Aubin. Voilà. Et donc ils soutiennent la DMR. Et donc ce sont tous ces réseaux locaux qui font que il y a un maillage de l'extrême droite. On rappellera aussi que le député de la circonscription, c'est Roger Chudeau, qui est le conseiller éducation
du RN
et de Marine Le Pen, un ancien inspecteur général, tout de même de l'éducation nationale. Et ce sera intéressant de l'entendre aussi, à un moment donné, s'exprimer sur ce projet qui, je pense, je ne dévoile pas de secret, je pense, doit lui plaire, puisque ça va former les futurs cadres du Rassemblement National.
Entre autres, Emmanuel.
Roger Chudeau, avant d'être IG, ou en même temps qu'il était IG, il était surtout conseiller de Gilles de Robien quand il était ministre de l'Éducation nationale et de François Fillon. Il était conseiller éducation de François Fillon quand il était Premier ministre.
Voilà.
Donc en fait,
la
si on a.
De la droite conservatrice
et,
au pouvoir.
Et j'ai l'habitude de dire que si aujourd'hui on a un problème dans l'éducation nationale et dans le secteur public, Roger Chudeau, qui est profondeur aujourd'hui de la politique éducative, est à l'origine de, certains choix qui ont été faits et mis en place, notamment le socle commun. Enfin, le tronc commun à l'époque au collège, la réforme des collèges de François Fillon, etc., etc. Donc, il est à l'origine des problèmes de l'éducation nationale aujourd'hui. Et ça, il faut le rappeler aussi parce que il a tendance quand même à faire oublier par où il est passé.
Et il est de chez nous, voilà, c'est dit.
Et il peut utiliser le dressing de Jeannie Lorjou.
De Jeannie Lorjou. On va toucher à la fin de cette émission. Je voulais revenir sur la question de l'emploi. On voit, vite fait, on voit que, puisqu'il y aura un internat, que donc les profs vont être aussi soumis à ces règles-là. Donc, hormis peut-être quelques-uns des agents d'entretien, gardiens, etc., finalement, les professeurs, comme vous le disiez, Catherine, ne vont pas forcément venir du coin et vont être finalement logés, nourris et blanchis sur le site de l'académie, donc pas forcément consommer des biens immobiliers, des biens de consommation courante dans les commerces de nos
refuseniers. Des commerces locaux.
Des commerces locaux, voilà, etc. Ouais. Donc en fait, il y a une vraie volonté d'autarcie, voire le mot va revenir, on ne l'a pas trop prononcé, de séparatisme finalement au sein de cette académie en fait.
Tout ce qui se dessine actuellement sur la Sologne, c'est ça. C'est-à-dire vraiment une politique de séparatisme, une politique de ghettoisation.
De privatisation et d'accaparement, vous me disiez en préparant l'émission.
D'accaparement des terres, voilà, parce qu'en fait, la principale motivation, en fait, ce type de population, de ces ultra-riches, on va les nommer quand même, voilà, les ultra-riches, c'est de privatiser l'espace pour la chasse, pour la protection. Ils veulent se protéger contre les intrusions des autres. Voilà, le reste du monde ils ne veulent pas entrer en contact avec eux. Ils veulent gérer le gibier et en fait, tout ça, ça aboutit à la fermeture d'un territoire et ça exclut le public. D'une manière générale, ça exclut les autres. Ce phénomène qui a favorisé la concentration en fait foncière, des terres foncières, et qui maintenant, toutes ces terres appartiennent aux mains de propriétaires qui sont ultra riches, qui sont aisés et qui dictent leurs lois en fait. Et qui dictent leurs lois avec le soutien en fait des élus locaux, qu'on appelle les baronnies locales. Jeannie Lorjou, 40 ans de
vie politique,
de vie politique, hein. D'engagement sur son territoire. Voilà, en gros, ça en fait partie, mais il n'y a pas que. Voilà, on va aujourd'hui jusqu'à Alexandre Avril, qui est beaucoup moins.
Jeune,
on va dire.
Nous, mais qui a prévu de rester, j'imagine, de s'installer pour la.
Oui, il était quand même attaché parlementaire à un moment donné aussi de Jeannie Lorjou. Donc en fait, voilà, les deux sont liés.
Un atavisme.
Voilà, exactement. Tout ça, en fait, ça concourt à la perte du vivre ensemble. Voilà, c'est ce qu'on appelle le séparatisme. Pour moi, c'est vraiment très clair. On parle aussi de solonisation. Ce terme-là, on l'a retrouvé, en fait, depuis les années 90, ça existe. Ce terme-là existe dans les publications qui sont de chercheurs, etc. On parle déjà de solonisation, c'est-à-dire qu'en fait, on s'enferme sur soi, soi-disant pour chasser, pour mieux chasser, etc., etc. Et on arrive aujourd'hui à, en fait, valider, à devoir lutter, en fait, contre l'engrillagement de la Sologne. Alors, en réalité, la loi, elle sera applicable qu'à partir de 2027 et encore avec beaucoup de difficultés pour la mettre en route.
On voit encore les coups de boutoir qui sont mis.
Voilà,
qui sont,
ouais. Mais on a la même chose sur le golfe des Bordes. On nous a promis, sur le golfe des Bordes, l'extension, on nous a promis Monts et Merveilles avec un nombre incalculable d'emplois. Il n'y a pas d'emploi, puisque le village commercial, en fait, je veux dire, les gens vont pouvoir s'approvisionner et se nourrir sur au sein place, même sur place, donc sans même sortir de leur petit confort.
Benjamin, et puis après, il me restera deux petites choses à voir avec vous pour finir.
Le séparatisme, effectivement, c'est. C'est le danger, mais qui n'est même pas prévisible. C'est le danger qui est inscrit à la fois dans la charte éducative et dans le projet de Pierre-Édouard Sterrin par rapport donc à son objectif Périclès pour gangréner en fait notre société et mettre à bas le vivre ensemble, le respect de l'autre. Et donc, au Parti communiste, on continue, à l'instar des organisations syndicales, à l'instar des autres mouvements de gauche, à appeler le préfet et le recteur, le préfet de Loir-et-Cher et le recteur
de l'Académie
Orléans-Tours, à s'opposer à ce projet, à cette ouverture qui, comme le rappelait Emmanuel Mercier tout à l'heure, donc organise une journée, pendant une semaine, vont accueillir les parents et les enfants autour de, notamment du thème du piège de la laïcité. Il s'agit vraiment d'une option séparatiste, en plus une année où on va célébrer les 120 ans de la séparation des églises et de l'État de 1905, c'est quand même fort de café. Et donc tous les dangers qu'on a pu mettre en avant d'un tel projet, je pense qu'il y aura des responsabilités qui pourront être imputées aux uns et aux autres s'ils n'ont pas le courage de s'opposer à cette ouverture de l'Académie Saint-Louis.
Deux dernières questions, une pour Emmanuel. Donc, on va parler concrètement de ce projet d'ouverture ou pas. Quels sont les documents, les arguments que vous avez déposés? Est-ce qu'ils ont été déposés? Quelle est la suite, là, on va dire, administrative de ce projet d'ouverture de l'Académie et votre point de vue de syndicat enseignant?
Alors, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, encore une fois, notamment depuis 2014, et ça s'est fait sous François Hollande, et puis, depuis la loi Gatel en 2019, il n'y a plus de possibilité. En fait, c'est simplement une déclaration d'ouverture de la part de ceux qui veulent ouvrir. Et le recteur ou le préfet ou le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture. Donc, il n'y a pas de débat contradictoire, en fait. Le dossier, c'est eux qui l'ont établi. Nous, ce qu'on a dit au recteur à plusieurs reprises dans les instances, publiquement, c'est qu'il y a tout un tas d'éléments, au-delà du dossier que l'Académie Saint-Louis a pu déposer, qui montrent qu'on va vers du séparatisme, qui montrent qu'on va mettre en danger la jeunesse. Et donc, en s'appuyant sur ces éléments-là, nous, on demande au recteur de s'opposer à l'ouverture. Mais les arguments sont ceux qui ont été développés, c'est-à-dire la problématique de la protection de la jeunesse, le danger d'embrigadement, le fonctionnement en capitainerie, l'absence de liberté de conscience pour les élèves, et un projet politique derrière qui a été affirmé par le financier, qui fait que, en fin de compte, ça n'est même pas un établissement scolaire, c'est une académie politique. Et donc, de ce simple fait-là, le fait que ça ne soit pas un établissement scolaire, ça peut entraîner une opposition d'ouverture. Donc voilà, donc il y a tous ces arguments-là qui ont été mis en avant.
Quelle date pour la décision de cette ouverture ou pas de ce projet?
Alors, d'après les informations qu'on a eues, donc c'est 3 mois après la déclaration, la date de dépôt du dossier complet. Et donc le recteur a jusqu'au 18 juillet pour s'opposer à l'ouverture. Donc il faut agir avant le 18 juillet. Une fois que l'établissement sera ouvert, ça sera trop tard. On voit que c'est quasiment impossible de faire fermer un établissement scolaire, y compris privé en contrat, une fois qu'il est ouvert.
Et donc, dernier élément, une mobilisation qui n'est pas centrée sur l'ouverture de l'Académie Saint-Louis, mais j'imagine qui en fera partie, puisque vous serez à nouveau en Fuselier, Catherine, avec le collectif Lutte Locale Centre. Parlez-nous-en un peu.
Voilà. En fait, il y a un mois, on a lancé un appel à contribution en vue d'un manifeste pour la Sologne, lors d'une conférence de presse devant le domaine de Chalès. Et c'est parce que c'est là qu'en fait Pierre-Édouard Sterrin, donc du coup, voilà, cherche à créer son premier établissement hors contrat pour créer et former les cadres de l'extrême droite de demain. Donc ce projet de manifeste est une tentative d'imaginer la Sologne libérée du phénomène de privatisation extrême des terres mis en œuvre par les ultra-riches, les propriétaires d'immenses domaines engrillagés. Et c'est là qu'en fait il se cache au fin fond de la plus grande forêt de France, voilà, qui est un endroit assez emblématique en fait de l'isolement. On a choisi d'inviter tout le monde à nous retrouver le 22 juin à Nouhans-le-Fuselier, juste en face de la gare de Nouhans-le-Fuselier, sur le petit parc qui est juste en face, pour faire un carnaval, pour proposer un carnaval, parce que c'est une tradition millénaire. Ouais, on n'a pas peur des traditions. Il faut aussi que l'on parle des traditions, parce que ça fait partie quand même de la vie de tout un chacun, quand même. C'est aussi le carnaval, la liberté d'expression populaire, et par le déguisement, la musique et le théâtre, le carnaval est un moment joyeux, ouvert à la satire et à la subversion des normes. Donc, pour nous, c'était le meilleur moyen, en fait, d'illustrer la possibilité de se rassembler pour proposer et pour demander autre chose que la Sologne que les ultra-riches nous imposent.
Voilà. L'engrillagement, l'Académie Saint-Louis et le Golfe des Bordes seront au cœur des enjeux de ce carnaval, j'imagine.
Exactement. Donc voilà, je rappelle, c'est à partir de 14h à Nouhans-le-Fuselier, le 22 juin.
Les militants du Parti communiste français seront... peut-être pas forcément tous masqués et déguisés, mais participeront à ce carnaval pour une autre Sologne et contre l'Académie Saint-Louis.
Et j'imagine d'autres...
Et nous aussi.
Il sera aussi. Et le FSU, il sera aussi. Eh bien, merci, en parlant de FSU, donc merci Emmanuel Mercier, donc du syndicat FSU 41, Benjamin Salès du Parti communiste départemental et donc Catherine du collectif Lutte Locale Centre. Merci à vous tous les trois, c'était passionnant. L'émission ainsi que la recommandation, le podcast donc de Blast, seront à retrouver en intégralité sur le site du podcast. Merci à tous les trois. Tout de suite, c'est La Roxette avec l'ami Christophe. Bonne continuation sur le site et sur les antennes de Studio ZEF. Merci à tous et à toutes.